Bientôt la fin du mois de novembre, un mois de novembre au sein duquel, eh bien, dans E égale MC Bleu, on vous a présenté des femmes scientifiques, parfois de l'ombre. On vous en parle chaque matin, chaque samedi avec Geoffroy Prévost. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Alex.
On s'attaque à qui aujourd'hui? Rosalind Franklin. Qui est Rosalind Franklin?
Alors, Rosalind Franklin, en fait, c'est une biologiste, enfin chimiste surtout, mais qui a œuvré dans le domaine de la biologie. Elle est née en 1920 à Londres, d'une famille assez influente hein, quand même, et elle est rentrée dès ses jeunes années dans une des rares écoles de Londres qui enseignaient à la fois la physique et la chimie. Donc où elle va exceller à la fois en sciences, en latin, elle va parler français couramment, donc ce qui sera très utile pour elle après. Et donc en 1938, elle va rentrer au Newnham College Cambridge, donc qui est le collège féminin de l'université de Cambridge, où elle va étudier la chimie au département des sciences naturelles. Donc elle rejoint directement le laboratoire de chimie physique de l'université de Cambridge, sous la direction de Ronald Norrish. Donc, pour le situer, c'est un futur prix Nobel de chimie, quand même.
Quand même.
Quand même. Et elle va quitter ce laboratoire au bout d'un an parce que, bon, il y a une incompatibilité d'humeur avec son responsable qui est pas dans sa meilleure période à l'époque. Elle va rentrer donc dès 1942 au British Coal Utilization Research Association, donc une association d'industriels du charbon, en fait. Et elle va étudier la porosité du charbon pour déterminer sa densité. Donc, ces découvertes vont aider à classer les charbons et prédire leur performance énergétique. C'est ce qui servira de travail de base pour toute sa thèse qu'elle obtiendra en 45 à l'université de Cambridge. En 47, justement, on disait qu'elle parlait français, elle va rejoindre le laboratoire central des services chimiques de l'État, à Paris.
À Paris,
voilà, où elle va apprendre, en fait, tous les aspects pratiques de ce qu'on appelle la diffraction à rayon X sur des substances amorphes, donc c'est-à-dire des substances non cristallines. Elle va appliquer ça au charbon, entre autres. Ça va lui permettre, en 1950, de rejoindre le King's College London, sur l'unité de biophysique, donc sous la direction d'un professeur qui s'appelle Randall et qui va lui demander donc d'appliquer cette diffraction rayon X à la fois sur des protéines et des graisses, mais également sur les fibres d'ADN, parce qu'il y a des nouvelles recherches qui viennent d'apparaître et qui sont prometteuses en fait sur les travaux de Wilkins et d'un étudiant qui passe sa thèse qui s'appelle Gosling. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu un petit manque de communication de la part du directeur du labo entre les équipes et ça a conclu à des grosses tensions entre Franklin et Wilkins. Donc ça, c'est justement ce qui va nous permettre de dénouer un petit peu la suite de l'histoire. Donc elle va surtout travailler avec Gosling, qui passe sa thèse, et elle utilise donc toutes les techniques de diffraction au rayon X sur l'ADN.
Et elle arrive à trouver quelque chose ?
Elle arrive à trouver quelque chose, en fait. Elle va ajuster déjà tout le matériel qui avait été commandé, et toutes ses connaissances en chimie physique vont lui permettre d'ajuster l'hydratation des échantillons, ce qui va être la clé de la découverte. Et c'est comme ça qu'elle va découvrir, en 1951, dès ses résultats qui suggèrent une structure hélicoïdale de l'ADN.
Ah, la fameuse structure qu'on voit en terminale
S. La fameuse structure en double hélice de l'ADN. Donc en fait, tout ça, ça vient d'une photo en diffraction qu'on appelle la photo 51. Mais eux ont réussi à déterminer qu'à partir de là, on avait une structure en hélice et en affinant un petit peu avec différentes recherches derrière, une structure en double hélice.